Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Il est 20h et comme tous les lundis, à cette heure-ci, on joue la prolongation. Édition de votre émission sportive favorite du lundi soir, en direct, bien sûr, sur Radio Judaïka, le 90.2 FM, ou sur Facebook Live, ou sur l'application, et même sur le site de la radio, radiojudaïka.be. Ravi de vous retrouver, donc, ce soir, à mes côtés, on va avoir... Eh oui, ah, il a été l'un des piliers de la saison toute l'année. Il nous a apporté chaque lundi sa fine connaissance du ballon rond et de tout ce qui l'accompagne dans le monde moderne, hein, le marketing et autres. Et ce soir encore, j'en suis sûr, on va apprendre plein de choses grâce à lui. Vous l'aurez reconnu, hein, certainement, il est fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Salut bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment ça va?
Salut Sam, pleine forme pour la dernière.
Super. On est ravis que tu sois là, à côté de lui, en face de lui plutôt. Ouais, oui, il fait son retour en studio pour la dernière de la saison et je dois dire que j'en suis ravi. Sa présence et sa mauvaise foi typiquement brugeoise nous auront manqué. Et c'est donc un plaisir non dissimulé que je l'accueille ce soir dans son studio, puisque vous l'aurez compris, il s'agit de la voix qui vous accompagne tous les jours de 7 à 9h30 au micro de la matinale, mesdames et messieurs, Didier Cohn. Salut Didier, comment tu vas?
Salut Sam, très bien. Salut Alex.
Salut Didier.
Ravi d'être avec vous ce soir pour débriefer l'année. Hein.
Exactement.
Et pour la reprise des entraînements au club de Brive aussi d'ailleurs. Mmh. C'était ce matin.
Et ben,
il y avait du monde. Je parle des joueurs. Hein.
Suffisamment pour faire un match à mon avis.
Ah oui.
Oui, ils ont un entraîneur déjà.
Il y a deux équipes surtout.
Mmh. Voilà. Ce soir, on a décidé de faire un petit bilan de la saison. On va revenir sur les événements qui nous ont marqués au cours de cette saison assez exceptionnelle, il faut le dire, parce que tant par la longueur, le calendrier, ça a été assez spécial. Alors, on va lancer des thèmes et chacun d'entre nous va vous dire ce qui lui a plu, ce qui l'a déçu. Et on va faire tout ça un peu sous forme de top et de flop. Et je vous propose sans tarder qu'on commence par les compétitions nationales. On va pas se limiter uniquement à la Belgique. Sur les compétitions nationales, tout ce qui s'est donc passé durant cette saison, quel est, messieurs, votre top de la saison? Dans les championnats nationaux, ce qui vous a le plus plu, le plus marqué, peut-être? Qui veut commencer?
Je pense que l'Antwerp, incontestablement, est le top.
C'est le top.
On a beau ne pas aimer pour certains, on a beau se poser des questions pour d'autres, quand tu réalises un doublé coupe-championnat, c'est exceptionnel. Tu as très bien fait ton travail, tu as une très grande distinction.
C'est vrai. Didier ?
Il n'y a rien à rajouter à cela, ça n'aurait pas été mon top à moi. Mon top à moi, c'est plutôt les play-offs, alors qu'à la base, je ne suis pas trop pour au niveau de la division des points. Mais ça nous a permis de vibrer et jusqu'à la dernière seconde, c'est le cas de le dire, du dernier match. Et franchement, pour le coup, je pense que ça a réconcilié pas mal de gens avec cette façon de voir le championnat. Encore que moi, la division des points, c'est toujours quelque chose qui me chatouille un peu. Mais c'est le top parce que, en supporter de foot qu'on est, indépendamment des équipes qu'on supporte chacun de notre côté, c'était vraiment plaisant, quoi.
Oui, c'est vrai que le championnat de Belgique a a eu un final assez, en apothéose. Il y avait trois équipes qui pouvaient être championnes jusqu'à la dernière journée.
Et qui l'ont toutes été.
Jusqu'à la dernière minute.
Ouais, pendant les 10 dernières minutes, toutes les trois ont été championnes à un moment ou à un autre. C'était juste invraisemblable comme scénario.
Après, il ne faut pas oublier, en Allemagne, tu as eu un scénario avec Dortmund et le Bayern. Mais également, jusqu'à 10 minutes de la fin, tu ne savais pas exactement qui allait être champion. Et il n'y a pas de play-off et encore moins de division des points.
Alors peut-être que ce sera dans un des flops. En tout cas, ce sera un des miens. Moi, je vais sortir de Belgique et je vais vous proposer le titre de Naples. C'est quand même la première fois depuis 1990 que les Napolitains prennent le titre. Ils ont fait une saison qui était assez dingue aussi. Ils ont atteint les quarts de finale de la Champions League. C'est la première fois de leur histoire. Et en plus, c'est un club sans méga vedette, je dirais, parce que ça reposait sur un super jeu d'équipe, un entraîneur avec plein de convictions, et des joueurs qui ont explosé. Il y a Victor Osimhen qu'on connaissait déjà, et surtout peut-être, et là je vais prendre ma respiration pour bien prononcer son nom, Kvaratskhelia, le Géorgien, qui a ravi tout le monde cette saison. On l'a découvert, on l'a surnommé Kvaradona aussi à Naples. Moi, je tirerais mon coup de chapeau au Napoli. Qu'est-ce que vous pensez de la saison du Napoli ?
Bah, y a rien à dire. Ils ont mené de bout en bout, quasiment. Moi, je regrette une seule chose, c'est que Dries Mertens soit parti un an trop tôt, parce que c'est quand même il y a une statue à son effigie dans la région de Naples, et pour le coup, il a pas choisi la bonne option.
Oui, on peut, il y a d'autres joueurs qui partent comme ça, mais après il a été champion Galatasaray, donc c'est
peut-être
un tout petit peu moins savoureux qu'avec Naples, mais
C'était une icône à Naples. Il a participé à la construction de cette équipe, et ce que je salue, moi, c'est que je n'ai pas suivi le championnat italien de manière très assidue, mais pour le peu que j'ai vu Naples jouer, c'était quand même agréable à voir jouer. Ça jouait, comme tu le disais, Sam, en équipe, ça jouait vers l'avant. C'était pas une équipe qui mettait le bus, comme on dit. Parce qu'il y a des gens qui disent on est champion quand on encaisse le moins.
Et puis surtout en Italie, où exactement. Il y a une culture défensive qui est quand même assez forte.
Qui a quand même bien changé aussi les dernières années.
C'est vrai.
Moi, franchement, mais en même temps, quand tu as Osimhen dans ton équipe ou un joueur de cette trempe-là, un peu comme Haaland, on en reparlera probablement, à City, tu as l'arme fatale. C'est quand même un joueur d'exception, et en plus jeune, pour le coup.
L'équipe est vachement jeune en soi. Absolument. Aussi. Ouais. Donc, ils ont vraiment construit Naples sur une base de jeunes joueurs, certains totalement inconnus, mais qui ont quand même coûté relativement cher. Et cette symbiose, cette synergie créée dans l'équipe a porté rapidement ses fruits, parce que la Juventus est passée complètement à côté, parce que le Milan AC n'a pas su refaire la même saison que l'année passée, parce que l'Inter était absent aussi une partie de la saison. Ils en ont vraiment bien profité, donc le titre est amplement mérité dans la région.
Seul petit bémol, je dirais, c'est qu'ils n'ont pas réussi à conclure au moment propice, c'est-à-dire devant leur public, où ils auraient pu être champions. C'est dommage, parce que tout le monde, tout était prêt pour, et ils jouaient contre une équipe qui n'avait plus rien à gagner ni à perdre.
Salerne, un derby en plus.
Exact. Et c'est dommage pour eux, parce que ça aurait été
plus grandiose. Ouais. Pour la petite histoire, Kvaratskhelia a été élu, nommé joueur de la saison en Serie A, et il a même été nommé meilleur jeune joueur de la saison en Champions League. Donc vraiment une saison parfaite, quasiment. Ils ont été en quart de finale de Ligue des Champions, on les attend avec impatience la saison prochaine.
À part en France, il n'y a que des beaux champions.
À part en France, exactement. on va y revenir aussi.
Pardon, Sam.
Non. Didier, tu m'avais dit hors antenne, tu avais parlé du Barça, et c'est vrai qu'on peut saluer le retour du Barça.
Ouais, parce qu'on n'a pas entendu parler du Barça toute la saison, façon de parler. Ils ont quand même mis une mine au Real Madrid, parce qu'ils terminent avec 11 ou 13 points d'avance, je pense, c'est un truc du style. Ils étaient aussi en Coupe d'Europe, donc il ne peut même pas y avoir l'excuse de dire...
Pas très longtemps. Hein.
C'est vrai, mais en même temps, je pense que Luis Enrique et Xavi plutôt, quand même... Oui, bien sûr. Il a reconstruit l'équipe aussi. Donc finalement, tout le monde a dit le Barça sans Messi, ils vont être dans le ventre mou, et puis ils ont perdu quand même Piqué maintenant, ils ont perdu toute leur charnière dorsale maintenant, avec Busquets qui s'en va aussi. Et ils sont champions, mais haut la main, et ils ne doivent rien à personne.
Ils ont remplacé ces joueurs de manière très intelligente.
Absolument. Et des jeunes,
t'as
en plus.
Tu as eu Lewandowski, Gavi qui a explosé aussi. Ouais. Donc tu as un travail de fond qui a été réalisé au Barça dans le doute, parce qu'il y a le doute financier aussi. Mmh. Dans quelques jours, Barça TV s'arrête aussi. Il y a plus de 100 personnes qui perdent leur emploi. Ils ont énormément de dettes qu'ils doivent tenter de pallier d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure stratégie, c'est d'être champion et peut-être même d'aller très très loin à Champions League l'année prochaine pour tenter de grappiller les millions et éviter d'autres drames. Donc, 10 sur 10 aussi pour le recrutement et le travail.
Absolument. Mais c'était beau à voir aussi. C'était pas sur un malentendu comme dans certains championnats parfois.
Oui, et puis moi, ça me fait plaisir de voir que c'est Xavi qui a les clés du camion. C'est sa première saison en tant que head coach du Barça. On peut s'attendre à une montée en puissance et à avoir un beau football peut-être proposé par Xavi. T'as l'air circonspect, Alex ?
Non, mais le Real investit pour reprendre le titre. Donc la deuxième saison, celle de la confirmation, sera beaucoup plus compliquée aussi pour le Barça.
C'est vrai.
En même temps, le Real, ça fait 20 ans qu'ils investissent pour être champions. Les Galactiques, ça vient de là. C'était leur époque, Roberto Carlos, etc. Et je parle sous le contrôle de Sam, comme quoi c'est pas toujours l'argent. Alors tu peux attirer du talent, mais il faut que la mayonnaise prenne. D'une certaine façon, quand tu vois le PSG, avec le talent qu'il a, ça devrait être champagne tous les dimanches. Qui ou ça, quasiment. Mais c'est vrai, tu vois, je veux dire, je veux pas casser le PSG pour casser le PSG, mais avec ce qu'il y a sur la feuille de match, tu devrais, même s'il perd des points, mais au moins montrer quelque chose, ça devrait être vraiment une propagande pour le foot. Or, c'est tout sauf ça. Et quand tu vois le Real, les matchs qu'ils ont pu perdre, la façon dont ils les ont perdus, je parle pas de Champions League, évidemment, franchement, tu te dis... Ce serait toi ou moi ou quoi à la radio, on dirait faute professionnelle, au revoir monsieur, merci beaucoup.
Ouais.
Vrai ou pas ?
Oui, mais après, tu as du mal, et on l'a vu avec Bruges cette année, malgré les investissements, malgré le talent, malgré tout ce qui peut fonctionner et qui est présent.
C'est inacceptable.
C'est inacceptable, mais c'est ça arrive. Tu ne sais pas avoir quatre champions, donc sur quatre équipes, tu en as toujours trois qui auront mal travaillé.
Je ne parle pas du fait de ne pas être champion. Moi, je parlais de Bruges, en l'occurrence, deux minutes. Je veux dire par là que c'est inacceptable avec l'investissement qui a été fait, avec l'équipe qui existe, avec le talent qu'il y a, de terminer quatrième, de faire la Conference League, où je pense que les joueurs doivent être autant motivés que moi pour aller voir un spectacle de danse classique. Donc voilà, à part pour les motiver avec des commissions ou de l'argent,
des primes.
Des primes, voilà. Mon Dieu, je suis très fatigué ce soir. Leur donner des primes par point, peut-être, mais pour le reste, tu demandes à n'importe quel joueur, c'est pas toi qui vas me contredire. Champions League, Europa League ou Conference League. Après, tu
le
dois
fait,
gagner.
Le fait d'être en Conference League n'est que le résultat de la nonchalance en championnat affichée cette année.
Et c'est là que je parlais d'erreurs professionnelles.
Plus des mauvais investissements, plus de... il y en a plusieurs qui ont été dramatique.
Oui, mais c'est le plus coûteux.
Certes, mais tu as changé ton ADN en cours de route du côté de Bruges. Là où tu allais chercher des Izquierdo, des Danjuma, des Limbombé pour relativement pas trop cher, que tu réussis après à vendre trois fois plus, là tu as été chercher un joueur qui te coûtait ce que tu as vendu.
Tout à fait d'accord.
Tu t'es bloqué toi-même en tant que Bruges.
Pour une fois, ils ont généralement une politique assez saine jusque-là et assez intéressante. Ils ont toujours fait des plus-values relativement incroyables. Et là, pour le coup, ça a été vraiment... Mais pourtant, c'est les mêmes.
Dès qu'il signait Yaremchuk, tu savais que tu n'allais jamais avoir une plus-value pour son âge.
On est d'accord.
Pour tous les facteurs qui entrent.
15 millions
17.
17 millions. 17 millions. Ouais. Très, très cher. Vous l'aurez remarqué, on est déjà passé dans le flop, côté des flops, puisqu'on parle de Bruges. J'aimerais qu'on... Il y a un autre flop, on va l'appeler comme ça, qu'on a évoqué, c'est le Borussia Dortmund. C'est Bigard qui disait, je ne vais pas craquer à 3 mètres du bol de sangria. Et bien eux, ils ont craqué, ils avaient repris la main. Ils devaient être champions, ils pouvaient priver le Bayern du titre pour la première fois depuis 10 ans. Et ils n'ont pas été capables de gagner leur dernier match de la saison.
En tennis, on appelle ça la peur de gagner.
Ouais, à domicile, match nul 2-2 face à Mayence, qui n'avait plus rien à gagner. Ils ont eu un but qui a été refusé, qui leur aurait permis d'ouvrir la marque. Bon, et ils ont été menés 0-2, ils sont revenus à 2-2, et ils n'ont pas réussi. Dans le même registre, mais peut-être un peu plus attendu, c'est le craquage de Arsenal, non ?
Ah oui, alors là, c'est... En fait, c'est très comique parce que j'ai une connaissance, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un fou d'Arsenal, mais depuis toujours. Et début de saison, je crois que c'est vers le mois de novembre, ils avaient genre 11 ou 12 points d'avance, je pense. Et je lui envoie un texto en disant, si cette année, ils ne sont pas champions, ils ne seront plus jamais champions de toute leur histoire. Et franchement, et de toute bonne foi, j'étais persuadé qu'ils étaient en route vers au moins un titre, peut-être pas avec 12 points d'avance, mais au moins le titre. Et là, franchement, c'est inexplicable. Hein.
Ouais, peut-être la jeunesse de l'effectif, le manque d'expérience, et effectivement, mais ils ont craqué de manière, enfin c'est mental hein, sans doute, ils avaient quand même beaucoup moins de...
Tu as Manchester City qui revient en force et qui gagne énormément de matchs aussi.
Oui, c'est ça, ils ont fait un carton plein sur la fin, bon on peut mettre aussi à leur... ils avaient un calendrier tellement... plus important, plus difficile, enfin plus lourd, plus chargé, un effectif aussi qui va de pair.
Rhétorique, hein, oui, ouais. Clair. Mais en même temps, c'est vrai qu'Arsenal, à la limite, c'est pas tellement les défaites qui les ont fait perdre, c'est les matchs nuls, en fait.
C'est les matchs nuls, mais c'est surtout le manque d'expérience. Après, ce manque d'expérience est pallié par la fougue de la jeunesse de l'équipe, mais en coulisses, il y a un travail de fond qui est fait aussi, et tous ces jeunes, ou en tout cas, je pense qu'il y a 5, 6 ou 7 joueurs qui ont déjà rempli leur contrat jusqu'en 2025-26.
D'accord.
Ils essayent de travailler sur l'avenir... Pour encore...
Arsenal fait ça depuis l'époque Wenger, hein. Ça fait 25 ans qu'ils investissent sur l'avenir. Toutes les pépites qu'ils ont formées, qui sont parties à l'étranger faire les beaux jours de plein de clubs, ça vient d'Arsenal. Mais en même temps, ils courent derrière un titre depuis combien de temps maintenant ?
Je pense que l'époque Wenger était assez différente. Tu avais Thierry Henry, ce n'était pas un jeune joueur.
C'est vrai.
Tu avais Vieira, Reparlor, tu avais Dixon, tu avais Adams, tu avais... Tout au début, tu avais ces joueurs-là aussi. Il y a eu certains jeunes qui sont arrivés comme Fabregas, mais l'un dans l'autre, il y avait très très peu de très jeunes joueurs talentueux qui ont été recrutés à cette époque-là. Ici, on mise sur un effectif quasi à 90%.
Est-ce qu'on pourrait envisager
de moins de 22 ans ?
Selon toi, alors je mets un pavé dans la mare, la réponse est dans la question, mais en même temps, tu as une équipe qui mène comme ça avec 11 ou 12 points d'avance, comme Arsenal, avec un très jeune entraîneur, Mikel Arteta. C'est pas, il a un CV long comme mon petit doigt, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça vaudrait la peine de dire, bon, ben, t'es très bon, t'es très sympa, merci pour le service, mais on engage un Mourinho, par exemple, pour la deuxième partie de saison, on assure le titre. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Parce que finalement, ce serait une stratégie comme une autre.
Ouais, bah alors c'est la stratégie sur un autre plan qui est adopté par le PSG depuis des années. Vous gagnez pas la Ligue des Champions, merci, au revoir. Là, ils ont pas gagné, mais ils sont en train de construire quelque chose quand même.
Moi, je suis ravi. Hein,
moi, je pense que ce serait une erreur stratégique de virer Arteta.
C'est surtout une stratégie a posteriori, parce que pendant la saison, tu ne t'attends pas à ce que ton équipe flanche.
Là, c'est clair, mais d'un autre côté, ce que les supporters ne retiennent ou ce que les statisticiens ne retiennent, ben, finalement, c'est 2023, Manchester City champion, point.
Oui, mais
peu importe la façon, avec qui, comment, quoi
qu'est-ce. Je ne verrais pas Arsenal comme un flop, je ne verrais pas Dortmund comme un flop, l'Union également. Ce n'est pas nécessairement un flop parce qu'il passe à côté du titre.
Non.
Parce que le dénominateur commun est le manque d'expérience.
La perte du titre est un flop, mais l'année n'est pas un flop, c'est ça?
Oui, mais c'est surtout le manque d'expérience qui a joué énormément pour ces trois équipes, par exemple. Peut-être même un peu Lens aussi, d'ailleurs. Qui a fait une saison exceptionnelle et qui termine deuxième.
Ouais,
à quelques points du PSG, pas tellement d'ailleurs.
Tout à fait,
et en même temps, psychologiquement. Quand tu es dans...
Lens n'a jamais été en tête, tandis que les autres,
Et en même temps, ils savent qu'ils sont derrière le PSG, qui dans leur tête, dans un coin de leur tête, est genre inaccessible, quoi. Je pense que quiconque, sauf sur un malentendu,
ils se disent, nous, deuxième, c'est
comme si on est premier, quoi.
Je pense qu'ils étaient plutôt en lutte contre Marseille pour assurer la place qualificative en Ligue des Champions, en se disant le PSG est au-dessus. Et t'as raison, sans doute psychologiquement, ils avaient un petit retard.
Et deuxième, c'est premier pour eux.
Ouais, c'est ça,
d'une certaine façon, dans un championnat comme celui de France, à mon avis, c'est plutôt de cet ordre-là. Ou alors, tu as l'expérience d'un Marseille, si c'était le cas, d'équipes qui ont une histoire.
Et puis, ils étaient en Ligue 2 il y a si peu de temps. Donc c'est quand même
quelque chose d'incroyable.
Ouais, c'est vrai que l'Union, on ne va pas en parler comme une grosse déception. Ça a dû être décevant pour eux de perdre le titre comme ça.
De la maturité pendant la saison. On s'était dit ça plusieurs fois quand on a fait l'émission ensemble. On s'était dit ils ont appris de l'année d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire les petites fautes professionnelles, c'était pas le football un petit peu romantique.
Ça manquait de malice.
Ils avaient déjà appris, tu les sentais beaucoup plus... Ils commençaient à perdre du temps, enfin, comme tout le monde fait. Ils avaient acquis certaines ficelles. Moi, je les voyais vraiment champions. Et en plus, sur le football produit depuis 2 ans, je trouvais que c'était méritant. Franchement, après, l'Antwerp est un champion, je salue, bon champion. Moi, en termes de football, j'y ai pas trouvé mon compte, mais c'est perso.
Faut pas oublier leur début de saison, qu'ils ont quand même enchaîné 9 victoires consécutives, je pense. Ils ont un parcours remarquable en coupe parce qu'ils la remportent. Et c'était un football intelligent, en fait.
Ah, c'est clair, c'est
mais
calculé.
Ça peut être admiratif, ça ne doit pas être spectaculaire pour être beau. Et il y a certains jeux, le Catenaccio même, tu peux regarder ça, ce n'est pas très spectaculaire en termes d'occasion de but, mais rien que le fait de presque avoir robotisé tes joueurs à adopter une position, mm-hmm. un style, une course, c'était magnifique à voir aussi.
Est-ce que dans les déceptions, vous ne mettriez pas, on n'en a pas parlé encore, Genk, qui a aussi compté une avance hyper importante.
Ah, ils ont marché sur l'eau. Hein.
Ouais, ils se sont fait grappiller des points au fur et à mesure. On voyait le moment où ils allaient se faire avaler. Bon, ils ont réussi à terminer en tête à égalité avec l'Union, la phase classique. Ils ont perdu, on en a parlé souvent, mais tu nous as bien expliqué, Alex, aussi, qu'il y avait des opportunités qu'on ne pouvait pas laisser filer. C'était la vente d'Onuachu, qui était leur meilleur buteur. Ça a peut-être...
Avec Onuachu, ils seraient champions, tu penses?
Oui.
D'accord.
Mais il y a Pencil qui a... Ouais, mais c'est vrai qu'ils avaient cette attaque avec Onuachu, avec Pencil, avec Trésor qui a explosé. Et c'est vrai que ça a marqué un coup d'arrêt. La Coupe du Monde aussi a été un frein, pour pas pour eux, hein, mais pour ça a coupé dans l'élan
pas pour
Genk, parce qu'ils ont enchaîné après, mais c'est vrai que ça...
Non, ils se sont réveillés après, ils ont eu une période un peu molle, un petit peu avant la Coupe du Monde, et puis après, tout doucement, ils se sont repris. Par contre, en termes de foot, c'est quand même c'est oxygénant de regarder l'Union et Genk jouer au foot, quoi.
Mais Onuachu, oui, tu avais une opportunité de le vendre, d'ailleurs, pour ce qu'il a été faire à Southampton.
Ah ouais.
C'est bien d'avoir pris l'argent,
ouais.
Mais tu changes tout à fait ton attaque. Parce que tu vas prendre un autre joueur à Rocaré, je pense, qui vient de France. C'est une autre d'autres habitudes, c'est d'autres lignes. Donc tu as perdu beaucoup de points pendant son adaptation, et en plus, il s'est blessé par après.
Ouais.
Donc tu as perdu du temps, tu as perdu... des opportunités, et là tu n'as pas pris les points que tu devais, qui ont joué psychologiquement de manière néfaste pour la suite. Et je pense, oui, avec Onuachu, Genk aurait été champion, mais dans l'équation, il fallait tenir compte que le champion de Belgique n'avait pas de Champions League cette année.
Oui, c'est vrai.
Contrairement à Bruges ou à Genk même la dernière fois, et Bruges les a embêtés parce que Bruges s'est qualifié en tant que deuxième belge, donc ça coupait les droits TV en deux. Tu n'étais pas assuré des 30 millions. Donc Genk devait, pour se pérenniser, vendre Onuachu pour 18, je pense.
Et 18 aller, seulement
je pense, ouais.
Quand je vois qu'ils ont vendu 18 et que nous, on a acheté Yarmouchouk pour 16, 17, ouais. Ça fait peur. Hein. C'est pas, ils ne font pas le même sport, tous les deux.
On va passer à la Coupe d'Europe. Ça va vous donner l'occasion quand même de dire du bien de votre club. Dans les tops, vous mettriez quand même le bon parcours des clubs belges en général,
oui, bah,
et de Bruges en particulier, qui a réussi à sortir son groupe de Ligue des Champions, qui s'est fait stopper en 8e de finale. Et c'était quand même une belle saison.
Enfin, moi, je dirais, perso, mais c'est mon ressenti. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais ils ont eu... Le premier tour de ce mini-championnat était juste invraisemblable, notamment avec leur victoire 0-4 à Porto.
Incroyable.
Et puis après, et de quelle manière en plus, parce que c'était pas sur un malentendu qu'ils sont allés vaincre Porto. Et puis après, il y a eu une espèce de décompression complète. Et je pense que ça a... Comme en sport automobile, parfois, tu dois sacrifier l'entrée du virage pour pouvoir conditionner toute ta ligne droite et te prendre de la vitesse. Et là, ça a été exactement l'inverse. Je pense que cette décompression en Coupe d'Europe s'est reportée sur le championnat. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Ils ont commencé à perdre des points bêtement, à penser que ça y était. Et puis après, bah, tu perds la confiance. Enfin, voilà. Et moi, de ce point de vue-là, je suis déçu de mon équipe. Je reste supporter jusqu'au bout des ongles. Mais ils m'ont déçu. Et pour moi, ils ont commis une faute professionnelle. Tous en groupe, hein, je parle pas... Tu peux pas en retirer un, vraiment, sauf un qui était une bonne surprise en fin de saison pour moi, c'est Noah Lang. C'est le seul qui mouillait le maillot à chaque match. Il avait presque, je dirais, l'allure d'un capitaine à côté d'un Hans Van Aken qui traînait son ennui, je trouvais, alors qu'il nous a habitués à tellement illuminer les matchs dans lesquels il joue. Enfin, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose que moi, Alex.
Oui, j'ai ressenti la même chose, mais je rajouterais Meyer aussi, l'arrière-gauche.
Oui, tout à fait.
Il ne faut pas oublier qu'il est très jeune,
oui.
Qu'il a fait pour moi une saison au-dessus du lot, dans des conditions très difficiles. Et
vraiment
big up à ce joueur, mais surtout, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a déjà évoqué la problématique de Bruges dans d'autres émissions. Moi, je trouve que tu commences ta saison très très mal.
C'est vrai.
Je pense que tu perds à Eupen, et puis tu fais match nul contre Zulte Waregem à domicile. Zulte, qui était pire qu'une catastrophe cette année. Donc Bruges a mal commencé sa saison, et j'ai l'impression que Oefkens n'avait pas la main mise sur son groupe, qui tirait encore des séquelles de l'épisode Clément et même Schröder qui avaient réanimé un court instant pour être champion. Mais Houfkens n'avait jamais son groupe en main et son groupe avait envie de jouer en Ligue des Champions, avait envie de se montrer en Coupe d'Europe, était focus en Coupe d'Europe et tout le reste, ils n'en avaient rien à foutre du tiers et du quart.
D'accord.
Et ça, c'est ça qui est dommage. Et c'est ça l'impression que le groupe a donné dans son ensemble. Après, Parker est arrivé, lui, il a complètement foutu le bordel, pour ainsi dire.
J'ai rien compris.
Ouais, parce que voilà,
c'était pas la bonne pioche.
Que ce soit stratégique, que ce soit tactique, que ce soit en interne, que ce soit du people management, il a foiré, mais zéro complet. Donc, c'est pour moi le Bruges maintenant avec Della est face à son destin aussi. Parce
là,
que
tu as
le match contre Aarhus, c'est dans 4 semaines. Et oui. Là, tu dois arriver en groupe stage de Conference League pour peut-être espérer de nouveau atteindre un quart de finale. Et c'est ce que la Belgique doit refaire cette année. Soyons pas naïfs. La saison dernière, c'est impossible de faire mieux, ou quasiment. Je pense qu'au niveau européen, tu es la cinquième meilleure nation, d'ailleurs, derrière l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Coucou la France.
Exactement.
Et juste devant les Pays-Bas et devant le Portugal aussi. Donc tu ne feras pas mieux, mais un club de Bruges se doit de passer, d'arriver en groupe et de passer son groupe au même titre que Gand, au même titre que Genk, peut-être en Europa League, et à voir où l'Antwerp terminera aussi. Mais ces clubs belges, c'était tous au top, même si dans la marge des choses, on peut dire Bruges, tu joues face à Leverkusen, Atlético Madrid et Porto. Donc il n'y a aucun cadre. Il n'y a pas de City, PSG, Real Madrid, Bayern ou quoi que ce soit. Donc tu chopes un groupe qui est sympa, qui est abordable pour faire quelque chose, très homogène aussi. Et tu joues Leverkusen au pire moment. Ils étaient à deuxième avant-dernier de Bundesliga quand ils viennent à Bruges. Tu les bats 1-0. Tu vas à Porto qui est en pleine crise existentielle. Tu vas les battre 4-0. L'Atlético, ce n'était pas leur meilleur début de saison avant la Coupe du Monde non plus. Donc là, tu grappilles des points également. Et puis, tu passes ton groupe. Mais
c'est tout.
C'est dans la marge. L'Union, c'était pas un groupe exceptionnel non plus. C'était Malmö, c'était Braga et c'était l'Union de Berlin. C'est des équipes équivalentes.
Mais l'Union de Berlin était quand même première de Bundesliga au moment où ils l'ont rencontré.
Certes, mais c'est des équipes équivalentes au top 6 en Belgique.
Et ils les ont battues ensuite en 8e. Mm-hmm. C'était un peu bizarre comme un tirage au sort, mais...
C'est un hasard
ouais,
complet du tirage au sort, justement, qui n'est pas téléguidé parce que tu avais une phase préliminaire avec les deuxièmes.
Oui, c'est ça, il fallait faire sortir les...
C'est la poisse. Mais de nouveau, tu n'as pas un vrai cador dans ce groupe.
On a eu un tirage favorable, on va dire.
Idem Anderlecht et Gand, là, c'était...
Anderlecht, on peut quand même faire la seule bonne... On va faire un petit coucou à Henri, l'exploit.
Coucou Henri.
Face à Villarreal. Bravo. On passe. non, mais le vrai top de la Coupe d'Europe cette saison, on ne va pas se tromper, c'est City.
Ah oui, alors là.
Première Ligue des Champions, et de quelle manière? La première demi-heure contre le Real, c'était fou.
Je pense que même le Real, ils étaient sur le terrain avec leur pelle pour creuser leur trou, quoi. Ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. Franchement, c'était... Et autant, c'est extraordinaire, parce que le foot, parfois, tu te dis à quoi ça tient. Tu vois des joueurs, tu sens et tu sais ce qu'ils veulent faire, et ou bien c'est 30 cm trop court ou 30 cm trop long, un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, etc., etc. Et contre le Real, mais tout était vraiment nominal, quoi. Et quand tu vois ça à ce niveau-là, tu te dis que Pep Guardiola, c'est vraiment Merlin l'Enchanteur et qu'il a des joueurs, c'est des artistes, quoi. Il n'y a rien à dire.
Tout son groupe était d'une force
ensemble.
Et il a mis du temps dans la saison à construire cette équipe, parce qu'ils sont partis qu'un petit retard. Ce n'était pas le meilleur début de saison de City non plus. Mais en cours de route, ils ont trouvé un dynamisme. Il a changé de tactique avec deux milieux qui étaient plus hauts qu'à son habitude. Et là, ça, ils ont commencé à dérouler, ils ont bouffé tout le monde.
Et tu disais début de championnat difficile, et je me souviens qu'on s'était dit, je pense, dans une de ces émissions, c'est marrant cette année, dans tous les grands championnats, les cadors ont eu tous un démarrage très compliqué. Bayern en Allemagne, l'Inter en Italie, je parle des champions sortants, Bruges, on en a parlé, maintenant tu évoques le cas
de City.
Voilà, il y a plein de clubs, et même en Espagne.
Il n'y a pas que les champions. Les équipes qui proposaient ou qui fournissaient beaucoup de joueurs pour la Coupe
c'est
du
ça.
Monde, ces joueurs avaient peur de se blesser. Et donc, tu levais inconsciemment peut-être un tout petit peu le pied. Et donc, toutes les équipes ont eu cette difficulté, en fait, à se mettre en route au début de saison avec cette Coupe du Monde arrivante au mois de novembre ou au mois de décembre.
Oui, et puis surtout que la Champions League, c'est de septembre à novembre, donc c'est, tout s'enchaîne, et les matchs à haut niveau, on va dire, s'enchaînaient les uns les autres.
Oui, et puis cette saison, ça a été justement, ça a été comprimé d'une manière assez folle, hein, puisque je crois qu'on a... ils ont joué ces 6 matchs en 2 mois à peine. On a dû commencer vers le 6 ou le 8 septembre, et on a joué les derniers matchs de tout début novembre, puisque la Coupe du Monde commençait le 18.
Tout à fait.
Et c'est vrai que ça a été... et donc, il y avait aussi 17 journées de championnat à caser. Donc, c'était un rythme assez fou. Est-ce que vous avez un flop ? Moi, j'ai pas trop... Enfin, de flop de Coupe d'Europe, c'est un petit peu difficile, parce que même si j'aimerais pouvoir taper sur le PSG, bon, t'es battu par le Bayern en 8e de finale, t'es battu par le Bayern, t'es pas battu par n'importe qui.
C'est la façon.
Oui, oui. Non, mais... Voilà. De toute façon, sur le... La saison, non, c'est pas un flop, mais c'est juste, d'ailleurs, c'est une manière de rendre aussi hommage. C'est tous les clubs italiens qui ont perdu en finale de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est assez rare. Enfin, les Italiens étaient
En nombre et en force. Hein, ouais. C'était c'était même surprenant parce que c'était un championnat. Alors même s'il est retransmis pour beaucoup sur les chaînes ici en Belgique, mais c'est pas un championnat très glamour d'une certaine façon. Tu as 4-5 clubs et puis les autres, tu les
ça a vraiment changé. Enfin, c'était le centre d'attraction de l'Europe du football dans les années 80, les années 90, et depuis la première ligue est montée en.
Seulement.
Ouais. Oh, il y avait quand même le grand Milan de...
Berlusconi.
Ouais, de Berlusconi, mais il y a eu jusque... toutes les années 90, quand même, avec...
Là, t'étais déjà plus dans le style de typiquement italien dont on parlait. Voilà. Mais t'avais aussi tous les problèmes de PO à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, qui performaient très très bien.
Dont Naples, d'ailleurs...
Est-ce que c'était si surprenant que ça ? Mais ici, le foot italien, comme le foot portugais il y a 25 ans, s'est réinventé.
Ouais.
Il y a d'autres normes, il y a des stades qui se construisent, les Sassuolo qui arrivent, les nouveaux projets de stades pour le Milan, l'Inter, la Juventus qui a un nouveau stade, Catane est en train de...
Regarde l'Atalanta.
Cagliari, pardon, pas la Catane. Donc, Atalanta, ils sont en train de refaire leur stade. Donc, tu as vraiment une refonte profonde du foot italien, et ils en tirent déjà des résultats aussi, avec du sponsoring revu à la hausse, avec des droits TV revus à la hausse aussi, et on l'avait évoqué il y a quelques semaines aussi, l'idée du président de Naples de créer du contenu en plus pour vendre sur les plateformes streaming, Netflix, Amazon, etc. C'est de nouveau des choses qui vont, créer une popularité, pérenniser le foot pour les années à venir et surtout engranger des revenus à court terme pour continuer à se développer. Donc il y a une vraie structure qui se met en place et c'est parti pour rester. Et tu as de toute façon cette petite bagarre entre l'Espagne et l'Italie pour tenter de détrôner l'Angleterre.
Ouais. Mmh. Alors vous avez raison, j'ai été un peu trop chauvin. Le PSG, c'est quand même un flop en Coupe d'Europe. Alors pas effectivement sur le fait d'être tombé sur le Bayern, mais s'ils sont tombés sur le Bayern, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à finir premier de leur groupe non plus. Et surtout, ce qui est décevant quand on est supporter et puis risible aussi, c'est d'annoncer tous les ans qu'on a cet objectif et de ne pas faire les choses de manière professionnelle, suffisamment professionnelle en tout cas, pour réussir à atteindre cet objectif. Et City, qu'on l'a souvent dit, a le même profil un peu club racheté par un fonds souverain avec beaucoup de pétrodollars. Bah, eux, ils ont fait les choses dans l'ordre, ils ont bien fait les choses. Ils n'ont pas empilé des joueurs stars sur le retour, peut-être parfois, et ils ont réussi à atteindre leur objectif.
Mais je ne sais pas si c'est le flegme britannique, mais je pense quand tu vois Guardiola est en place depuis 2016, je pense, c'est ça. Et on lui garde la confiance, malgré qu'il n'a pas gagné de Champions League. Au PSG, finalement, chaque année, quasiment, ou presque, on change d'entraîneur. Ça veut dire qu'on change de philosophie, ça veut dire que le groupe doit de nouveau adhérer à une nouvelle personnalité, un nouveau caractère, qui lui aussi doit s'adapter à son groupe, qui a cette tête de turc qui change en fonction des différents entraîneurs. Je me demande si, en fait, le PSG n'a pas le défaut d'être trop latin, en définitive, d'être trop sanguin.
Ah, ouais, il y a une impatience qui est...
Parce que, finalement, tu compares, on sait que la presse française n'est jamais tendre, mais enfin, bon, il n'y a pas pire que la presse anglaise.
Oui,
hein.
Ça, sans doute.
Donc là, on peut comparer ce qui est comparable. La presse anglaise, elle ne passe rien à personne. Eh bien, Guardiola, ça reste Pep Guardiola. Il est resté là pendant 7 ans, ils lui ont gardé la confiance. je pense pas qu'il lui aurait encore gardé un ou deux ans de plus. Mais le mec, il a commencé un projet, il est arrivé avec les investissements qu'il faut. Ici, maintenant, depuis 3-4 ans, toi, tu dois savoir ça mieux que moi, mais j'en connais au moins 3 ou 4 des entraîneurs qui sont passés. Ah oui, c'est, et chaque fois, chaque fois qu'il les annonce, je me dis, oui, mais bon, Tuchel, j'ai pas compris ce qu'il était venu faire au PSG, personnellement, par rapport au foot qu'il proposait, tu vois. Je me dis, pour une équipe comme ça, il faut quand même... Mourinho, n'en parlons pas, parce que là, on se serait vraiment bien ennuyé, même qu'il y aurait peut-être eu des meilleurs résultats, remarque. Mais on se serait ennuyé avec des joueurs comme ça, bah voilà, tu dois proposer du foot champagne, mais quel entraîneur il faudrait? Ils ont eu tout. Galtier, on a dit qu'il était parti pour des années, ciao Galtier. Voilà. Je veux dire, je comprends pas. Ils ne supportent pas la pression, en fait. Alors qu'ils se mettent eux-mêmes la pression.
C'est ouais, ça je pense dingue. Qu'ils ont pas bien fait leur travail parce que ils ont été battus, comme, certes, par le Bayern, qui est une grande équipe, mais ils avaient un effectif ridicule.
Bayern, grande équipe, mais pas la. Pas cette pas saison. Le grand Bayern. Hein,
non, c'est vrai. Mais l'effectif du PSG était ridicule. Je veux dire, sorti des.
C'est ça le problème. Voilà. C'est pas, la question n'est pas est-ce que l'entraîneur est un problème. C'est surtout est-ce que le recrutement est adéquat. Exactement. Et est-ce qu'au lieu d'investir beaucoup dans peu de joueurs, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir peu dans beaucoup de joueurs?
Là-dessus, on est d'accord. Moi, je ne disais pas que c'est la faute à l'entraîneur, etc. Loin de là. Mais je dis, justement, ce que je donnais comme exemple, City est comparable, pas de Champions League, toujours demi-finaliste, finaliste, quart de finaliste, machin. Jamais à rougir de son foot, mais on garde la confiance dans l'entraîneur, globalement, dans le managing. Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme des boules de flipper, ils rebondissent et « Ah, ça va pas, ben on va changer. » Et puis j'ai l'impression quasiment qu'il y a certains joueurs dans le vestiaire qui font la composition, qui font la tactique, comme à un moment on a prêté à Messi que c'était lui qui alignait la composition du Barça.
Ouais, et au PSG, voilà. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire, entre guillemets, de Mbappé qui veut pas jouer pivot. Mais si on sait qu'il revient pas, c'est compliqué. J'avais regardé un petit peu les salaires. Donc les trois premiers du PSG, c'était bien sûr Mbappé, Neymar, Messi. Le quatrième, c'est Hakimi. Je crois qu'il touche 15 ou 17 millions par an, alors que le troisième touche 50 millions. Il y a une marge folle entre le troisième et le quatrième. Ça veut dire qu'il y a vraiment... Alors que tu regardes les salaires de City, c'est beaucoup plus homogène, là. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Alex, ça permet de faire un spread, enfin, d'avoir plus de joueurs de qualité équivalente. Au PSG, ça a été juste l'inverse.
Ne va surtout pas voir les salaires d'Arabie Saoudite et la différence entre le top et le flop là-bas. Parce que... Et l'Inter Miami aussi.
Oui.
Ça va sortir sur Sportimage dans les prochains jours, mais tu as un gap énorme entre Messi... 3-4 joueurs et tout le reste.
C'est vrai, c'est la structure un petit peu de la MLS.
Mais là, en même temps, les joueurs le savent. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire?
C'est un honneur pour eux de jouer avec Messi.
Voilà, c'est très différent. Ici, je pense qu'il y a une jalousie humaine qui s'installe, encore que je trouve que ça ne regarde personne combien gagne son voisin. Si le mec a mieux négocié que toi, ben, c'est qu'il est plus malin ou simplement plus talentueux. Après, s'il n'y a personne pour faire la passe, s'il n'y a pas un joueur à 10 000 euros par jour qui fait la passe au joueur à 1 million d'euros par jour, le joueur à 1 million d'euros par jour, il ne marque pas de goal non plus. Et donc, on arrive dans une logique comme ça en disant, mais sans moi, il n'est rien, je suppose. Et puis alors, se crée une ambiance qui est, pour moi, pas top dans
ouais,
cette enquête. Il y a trop de gaps.
Oui, au-delà de même de ça, c'est qu'ils se sont retrouvés à jouer le match retour contre le Bayern sans avant-centre. Enfin, ils avaient plus... Neymar était blessé, vous vous retrouvez avec... Ils ont joué un match avec Messi et Mbappé, tous les deux en pointe, alors que on sait qu'il n'y enfin, a aucun des deux qui est un avant-centre, qui peut jouer en pivot, alors que leur qualité, au contraire, c'est à l'un et à l'autre, c'est soit de partir de plus loin, avec des qualités différentes, mais et là, ils se sont retrouvés à devoir être les deux premiers pour faire le pressing défensif, à devoir jouer comme des avant-centres, ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Et on peut juste, comme tu l'as dit Alex, constater que c'est un défaut énorme au niveau du recrutement du PSG. C'est catastrophique.
Bah, ils pensent qu'avec l'argent, on achète tout et qu'on achète...
Non, mais à la limite, on achète tout, mais il faut acheter bien. Il faut acheter bien et pas acheter...
tout ce qui brille n'est pas or, hein, comme on dit. Et eux, ils veulent acheter tout ce qui brille et ils pensent que en mettant Messi, bientôt ils vont faire Ronaldo, Messi, enfin à l'époque. Et puis il faut que ces gens puissent jouer ensemble et c'est pas avec les égos qu'ils ont tous, c'est compliqué.
On va parler transfert, bien sûr. Je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse. On va faire comme dans les. Comme
j'ai
dans
une petite question, clin d'œil quand même.
Vas-y.
Le Real pas champion. Tu penses que si Eden n'avait pas été blessé, il serait champion?
Non.
Parce que finalement, c'est le seul qui manque à l'appel hein, dans les Galactiques.
Ouais. Enfin, est-ce qu'il est encore galactique depuis. Ça fait combien de.
C'est malheureux parce que c'est un gars extraordinaire. Franchement, il a un talent fou. Mais voilà, je pense qu'il s'est perdu au Real. Mais c'était le club de son cœur. Donc lui, finalement, il a fait le choix du cœur en définitive.
Tout n'était pas mauvais non plus.
Non, non, du tout.
Les dernières années, c'était laborieux. Mais le début était.
Il sera resté combien d'années? 3-4? 2019, il est parti?
Ouais, ou 4 2000... ans, je dirais.
Chose comme ça.
Ouais. 4 ans, ouais.
Il y avait un contrat de 5 ans, effectivement.
Et ça fait 2 ans qu'il se.
Enfin, la première année, c'était pas non plus
flambé. Non, non, il n'y a eu aucun moment où. Il y a un moment où il a été un peu moins décevant.
Ouais.
Oui, comme dans les cérémonies des Césars, des Oscars, on va faire In Memoriam. Il y a des grands du football qui sont décédés cette saison. Pelé, bien sûr, on en a parlé beaucoup. Juste Fontaine aussi, qui reste peut-être pour toujours le meilleur buteur sur une Coupe du Monde avec 13 buts. Puis il y a eu d'autres joueurs un peu moins connus. Il y a Christian Atsu, le Ghanéen qui est mort dans le tremblement de terre terrible en Turquie. Et puis la semaine dernière, et là je vous laisserai en parler un peu mieux que moi, il y a Stéphane De Mol, le héros de la Coupe du Monde.
Un des héros,
mais on se souvient de son but de la tête en 86, c'était face à la Russie.
La grande l'URSS.
Et Cédric Roussel, qui a lui connu deux sélections, un baroudeur avant-centre du football belge, qui sont tous les deux décédés dans les derniers jours. Ces derniers jours, un petit mot peut-être sur Stéphane De Mol, peut-être plus.
Stéphane De Mol, j'oublierai ni ce but de la tête, ni le commentaire de Franck Baudang et de Roger Laboureur à l'époque sur la RTB.
C'était d'ailleurs dans le générique de l'année dernière. On avait
Stéphane la petite. De Mol.
Et en même temps, c'est vrai que tu disais on a battu l'URSS, mais à l'époque, c'était en 86. L'URSS, c'était le grand, l'hyper favori de cette Coupe du Monde. C'était l'époque de Belanov, d'Assaïev au but, qui était le meilleur gardien après Yachine, je pense, de tous les temps.
C'était l'équipe favorite d'ailleurs pour remporter le tournoi.
C'est ça que je dis. Il était hyper favori de la Coupe du Monde. On a cru que la Belgique serait un oiseau pour le chat. Et en définitive, ce qui s'est produit, ça a été un match d'anthologie que je me souviens que j'avais enregistré. Et je me suis repassé la cassette plein de fois. Un petit peu comme les films de Rocky, tu vois. Quand tu connais les films de Rocky, tu regardes Rocky pour la 153e fois, eh bien, tu vibres encore et tu as encore cet énervement pendant le combat. Eh bien, la même chose. Belgique-URSS, le match, eh bien, chaque fois que je revivais, alors que je savais le résultat final, etc., eh bien, tu vibrais chaque fois. C'était juste un moment magique pour le foot belge.
Ouais.
Un peu comme Belgique-Brésil, d'ailleurs, en 2018. C'est un tout petit peu comparable
tout à fait.
Pour les plus jeunes générations.
Ouais, non, mais c'est. Et Stéphane De Mol, c'était un joueur, c'était le
atypique.
Pote à Georges Grün. Mmh. C'était les deux tours en défense qui montaient sur tous les corners. Et de fait, c'est sur un corner qu'il a mis ce but-là. Georges Grün qui nous avait qualifiés pour y aller au Mexique aussi, avec aussi un but de la tête, si ma mémoire est bonne.
Contre les Pays-Bas.
Mmh. C'était au Kuip, encore, à Feyenoord, si je ne me trompe pas. Et c'était. Enfin, moi, j'ai des amis qui m'ont dit que les Hollandais étaient. Les Belges étaient en dessous, et c'est un stade à étage, et que les Hollandais.
Ils ont dû prendre de la bière sur la tête.
C'était pas de la bière, non. C'était pas de la bière.
Ça avait
la même
couleur. D'accord.
C'était pas de la bière.
C'était la bière après l'avoir bu.
Voilà.
D'accord.
Et voilà, ça fait partie des. des grands moments pour les supporters, mais aussi pour les joueurs, bien sûr.
Alex, Cédric Roussel.
C'était un joueur talentueux qui était de Mons,
ouais.
Qui a été recruté par la Gantoise. Il n'a pas joué beaucoup à Gand, mais il avait quand même montré son talent dans peu de matchs. Et il a été recruté par Coventry City, qui était en première ligue à l'époque. Philippe Clément était là aussi. Tu avais l'international marocain, tu avais Hadji qui était là, Chipo. Deux, trois autres joueurs très connus qui jouent en cette équipe. Et donc, il a quand même marqué, il a quand même joué en première ligue aussi, bien avant les De Bruyne, Courtois, Hazard, etc. Il faisait partie de ce petit clan de Belges avec Philippe Albert, avec Philippe Clément, avec Branko Štrupar juste après. qui a été en première ligue. Donc, ouais. Mais 45 ans, ça reste très, très, très jeune.
Très, très jeune, ouais.
À une terrasse à Mons, crise cardiaque, voilà. Ouais. Tu seras d'accord avec moi si je compare Cédric Roussel, je parle en termes de gabarit, mais aussi en termes de façon de jouer à Laurent de Poitres. C'était aussi
oui, de loin,
ça. Surtout de loin, oui, tu vas me dire. D'accord. Bon, mais je vais y aller.
Non, je suis assez d'accord. C'est effectivement une sorte de pivot. Mm-hmm. Mais je pense que Cédric avait plus le sens du but aussi que de Poitres. Cédric, c'est plus un vieux, enfin ça dépend comment on voit les choses. Je le vois plus comme un vieux 11 qui était attaquant de pointe avec quelqu'un de rapide qui tournait autour et mais qui avait quand même là, un sens du but phénoménal. Et qui a quand même marqué plus de 20 buts dans une saison.
Tu vois comment le foot est étrange, parce que c'est en lisant les journaux que je me suis souvenu de Cédric Roussel. Mmh. Moi, il avait disparu des écrans radars complets. Et si tu m'avais demandé de citer 100 joueurs qui avaient marqué le championnat belge, et Dieu sait qu'il a marqué des buts quand même à l'époque.
Meilleur buteur.
Et voilà, et ben, jamais j'aurais donné son nom, jamais.
On va passer au transfert. On se fait une minute Sportimize, ou on va faire la minute
même
Sportimize.
Et alors, il le mérite, il est là.
Il est là.
Il va manger froid.
Alors Alex, de quoi on parle aujourd'hui dans la minute Sportimize?
Pour la dernière de la saison, on va parler d'un partenariat sponsoring un peu spécial, qui est celui du Barça avec Spotify. Ça a été annoncé bien avant le début de saison. C'est donc le Barça changeait de sponsor. Ils cherchaient également un naming pour leur stade, donc c'était devenu le Spotify New Camp. C'était l'avant du maillot, il y a eu un tas d'activations, etc. Mais c'était assez fascinant, parce que c'est rare qu'un service de streaming, et a fortiori audio, deviennent sponsors d'un club de foot et certainement d'un aussi gros club. Donc, le but à travers ça était des deux côtés. Tu as une notoriété Spotify qui souhaitait toucher le fan de foot, mais tu avais le Barça qui avait comme pour but de toucher la génération alpha et la génération Z. Donc tous les enfants entre guillemets nés après 2006 et surtout alpha après 2010. Donc tu as cette jeune génération et ils l'ont activé de manière assez intelligente. Tu avais certes le naming du stade, tu avais certes le sponsoring maillot, mais ce sponsoring maillot s'est décuplé durant la saison en deux activations. Tu as eu le Drake et Rosalia qui ont eu leur logo ou leur emblème sur le maillot pour un match spécial, le dernier contre le Real Madrid notamment. Ça fait un buzz énorme et ça crée un maillot unique que beaucoup de gens veulent s'approprier. Au lieu d'avoir Spotify classique de manière classique, tu as un maillot à l'effigie d'une star, en co-branding presque. Mais de l'autre côté, tu avais aussi des activations dans le stade. Tu avais un tas de chanteurs, 85 pour être précis, c'est-à-dire deux par match, qui avaient droit à des sons dans le stade, des visuels, du branding, pour justement les mettre en relation avec les fans, pour les faire connaître du grand public catalan. Et tu avais aussi les joueurs qui proposaient leur playlist sur l'application de streaming audio. Ouais,
c'est dans le genre win-win, c'est pas mal.
C'est win-win, c'est des deux côtés. Mm-hmm. C'est une très belle symbiose, une très belle synergie, je trouve.
C'est joli.
Et donc, c'est ce partenariat.
Et c'est pas violent. Ça change.
Ah non, c'est pas violent. Et c'est pas du betting non plus. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est un sponsoring très moderne, mm-hmm. avec beaucoup de synergie.
Intelligent.
Et c'est pour ça que je le mets en avant pour la dernière minute Sportimize de l'année.
Écoute, tu as bien fait. C'est vrai qu'ils targetent les bonnes cibles, les consommateurs de demain, via le sport le plus populaire au monde. Merci Alex pour cette minute Sportimize. On va rester dans l'argent. On va quitter le gazon, on va passer dans les bureaux des clubs, là où se négocient les contrats, les transferts. Et on va parler des transferts sous trois... Il y a les tops, le flop, et il y a une chose, un nouveau phénomène, on ne pourra pas ne pas en parler. D'abord le top, est-ce que pour vous, et vous êtes d'accord avec moi, Erling Haaland, c'est le top du transfert, 60 millions d'euros seulement?
C'est le top absolu.
Absolu. 52 buts en 53 matchs, le triplé, 60 millions seulement.
Attends, d'abord les 52 buts, mais le nombre d'assists aussi, parce que c'est ça qu'on oublie.
Il a quand même battu un record en première ligue, et il faut le faire en tant que joueur qui arrive pour sa première saison marquer autant de buts, détrôner Andy Cole, qui n'est quand même pas le premier venu non plus. il faut le faire. Dans une équipe qui tourne, dans une équipe où il y a d'autres stars aussi, même plus grandes pour certaines, c'est quand même une prestation exceptionnelle, vu son jeune âge également, et vu l'habitude qu'il avait en Bundesliga, il a su se réadapter en deux temps, trois mouvements pour...
Il est incroyable, il a fait trois clubs de suite où il est à chaque fois au top. Il était
Leipzig.
Il était en Salzbourg. Dortmund, maintenant City. 60 millions seulement. Le PSG a payé 45 pour Ekitike. C'est tout ce que je veux dire.
et Bruges 18 pour Yaremchuk.
Eh ben Yaremchuk et Ekitike, ça fait le prix d'Haaland.
On n'a pas le même résultat. En parenthèse, Haaland a failli signer au club de Bruges avant d'aller à Salzbourg.
Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal.
Bah non.
Non, parce qu'aujourd'hui, tu as Nusa, qui est le jeune Norvégien. Ça fait deux ans qu'il est à Bruges. Il a quelques minutes de temps à autre avec parcimonie. Il ne montre pas grand-chose. Et quand je vois maintenant, il a joué contre la France.
Il a mis le quatrième but à Porto.
Tout à fait.
Il a joué à l'Euro Espoir. Ouais.
Justement, il joue à l'Euro Espoir. Les commentaires sont lyriques à son sujet.
Il est exceptionnel.
Je ne vois rien à Bruges. Et donc, c'est typiquement le joueur qui va quitter Bruges, qui va aller exploser ailleurs et que tu vas retrouver, comme des Danjuma ou d'autres, à des Tottenham en Première Ligue.
Si vous voulez, c'est marrant, à chaque fois qu'il y a un flop, il y a le PSG qui est là-dedans. Xavi Simons, joueur qui a été recruté du Barça, il a été formé à la Masia, un Néerlandais. Il a joué 15 bouts de match en deux ans. Son contrat arrivait à son terme à la fin de la saison dernière, où je pense qu'il restait quelque chose parce que le PSG a quand même réussi à négocier une clause pour pouvoir éventuellement le racheter. Mais il est arrivé, il a joué tous les matchs, il est devenu titulaire en équipe nationale. Je crois qu'on va lui proposer le brassard de capitaine au PSV Eindhoven. Il réfléchit ou non à quitter le club du PSV Eindhoven. Et le PSG a encore gâché un talent. Est-ce que le top du transfert à part Haaland, c'est pour des raisons peut-être philosophiques entre guillemets? Non, d'abord je vais passer au flop. On va passer au flop, et pour moi il n'y a qu'un seul flop, j'arrive même pas à le nommer, mais c'est Chelsea avec sa saison à 611 millions dépensés, 67 millions encaissés, pour un résultat catastrophique. 12e de Première Ligue, 4 entraîneurs usés en une saison en comptant les intérimaires, hein.
Meilleur buteur qui a 9
Meilleur buteur qui a marqué 9 buts, toutes compétitions confondues, et Joao Félix. Un prêt à 11 millions.
Comme quoi, ça se vérifie toujours.
C'est l'argent ne fait pas le bonheur.
Il ne fait pas le bonheur et il ne fait pas l'équipe surtout.
Ouais, ça ne fait pas l'équipe.
L'esprit d'équipe en tout cas. Après, j'ai vu Chelsea, je crois qu'ils ont fait... deux matchs où c'était un petit peu où on s'est dit tiens, on retrouve un peu du beau football, mais pour le reste c'était poussif de chez.
Et puis cache misère, ils ont réussi à arriver en quart de finale de Champions League, on sait pas trop comment, mais enfin
sur des malentendus.
Et le dossier
ce qui est marrant, c'est que Chelsea maintenant, enfin son propriétaire a racheté Strasbourg, mais le rachat de tout le club de Strasbourg, c'est moins cher que Wesley Fofana et Enzo Fernandez.
Ça fait peur.
On va parler transfert de ce qui agite le monde, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, CR7 a ouvert le bal en fin 2022. Et depuis, il y a quand même des grands noms qui rejoignent. Benzema, Kanté, là on a appris Koulibaly. Et Ruben Neves, c'est peut-être ce qu'il y a de le plus choquant, entre guillemets. 26 ans, il jouait à Wolverhampton. C'est 55 millions.
Mais au final, tu vois, moi je vais te reprendre, je vais peut-être de nouveau être l'empêcheur de tourner en rond, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Ça, on peut se dire, voilà, c'est sa vie. Le gars, il a 26 ans, il choisit l'option pognon. Moi, perso, ce n'est pas la mienne d'option, mais je ne trouve pas ça choquant.
N'oublions pas une chose, il y a des Witzel et Carrasco qui sont partis s'enterrer en Chine, soi-disant pour toucher des millions. Ils sont revenus avec un niveau intact.
Oui, non, tout à fait. Là-bas, en Arabie Saoudite, c'est encore différent, parce que le football chinois est aussi en pleine expansion. Là, il y a un vrai projet. Je pense qu'en Arabie Saoudite, le projet n'est pas sportif. Il est plutôt économique, dans le sens, pas ramener de l'argent, mais d'avoir une vitrine.
Oui, mais il est sportif aussi. À travers ce projet, à travers des Ronaldo, tu crées aussi des centres de formation. Tu veux créer quelque chose pour pérenniser ton avenir.
Quand tu les vois jouer en Coupe du Monde, ils ont été ridicules.
Il y a aussi ça. C'est-à-dire que c'est... Il y a le pendant, alors pourtant j'écoutais Hervé Renard qui était le sélectionneur, il disait ouais mais tout ça c'est justement, ça va peut-être être mauvais, en tout cas peut-être à court terme pour le football national, pour l'équipe nationale, parce que bah, plus il y a de grands joueurs qui viennent, moins il y a de place pour les bons saoudiens. Après peut-être que dans peut-être la génération prochaine justement ils auront des jeunes qui auront été inspirés par autant de talents. De grands joueurs venus de l'étranger.
On aura peut-être des Saoudiens qui vont venir jouer en Europe parce que les talents, bah, les scouts se baladent un peu partout. Et il n'y a pas de raison que l'Arabie Saoudite, d'autant plus maintenant qu'il y a des stars qui évoluent, donc ça va être une destination
peut-être. Comme peut-être. Le Japon, il y a 25 ans.
Voilà, ouais. Peut-être.
Oui, mais c'est différent. Parce que le Japon ne possédait pas des clubs en Europe. Tandis qu'ici, tu as déjà une autre, un autre tissu macroéconomique et que forcément, les joueurs saoudiens... Et je soupçonne d'ailleurs que ça va arriver. Il y a les joueurs phares saoudiens auront une vitrine à Newcastle, par exemple. Je vois plus ça arriver pour faire de nouveau du marketing
croisé
entre les clubs et les nations et les fonds et des trucs comme ça. Mais ce qu'Hervé Renard dit, oui, c'est d'un côté c'est vrai, de l'autre pas. Les meilleurs joueurs saoudiens apprendront encore plus avec les stars, ils auront de toute façon leur temps de jeu, si ce n'est pas dans le meilleur des clubs, ça sera dans un autre club. Et surtout, tu vas bloquer d'autres qui ont des ambitions. Ça, c'est ce qui va arriver. Mais les meilleurs Saoudiens deviendront encore meilleurs.
D'une certaine manière, est-ce que ça c'est, en fait, ça c'est pas vraiment, c'est ce qu'on craignait peut-être avec, pour l'Angleterre. C'est-à-dire quand la Première Ligue est devenue ultra internationale, on a entendu souvent, oui, mais les jeunes Anglais, du coup, ils vont plus pouvoir trouver leur place. Ça a peut-être été. Alors, il y avait une génération fantastique qui n'a rien gagné, mais il y a eu un passage à vide, ouais. Mais c'est vrai que quand vous aviez la génération des Beckham, des Lampard, des Scholes, bon, ils étaient au top niveau, mais après, ça avait peut-être été un peu plus.
C'était laborieux aussi. Hein.
Non, ils ne faisaient pas de résultats, mais. Voilà, c'est ça.
Il y a une émergence incroyable de talent.
Les Foden, les Grealish, c'est.
Maintenant, oui, que ce soit en 98, ils ont été éliminés en 8e, je pense.
Ouais.
En quart par l'Argentine. L'Euro 2000, n'en parlons pas, c'était une catastrophe. La Coupe du Monde 2002, c'était un vrai fiasco aussi. L'Euro 2004, je pense que c'était demi-finale face à la. Ou non, avant. Quart de finale face à la France. 2006, ouais. Laborieux. 2008, laborieux. 2010, laborieux. Donc, tu as eu un gros passage à vide.
Ouais. On va pas avoir tellement le temps.
Vas-y, alors bien sûr. Qu'en général, vous savez que c'est pas mon personnage favori. Mais j'ai vu Cristiano Ronaldo marquer un but avec le Portugal. Eh bien, ça m'a réconcilié avec Cristiano Ronaldo. Je ne parle pas de la beauté du but ou pas, mais il était heureux comme un gamin qui marquait le premier but de toute sa carrière. Dieu sait qu'il en a mis.
Il en a mis 123 ou 125 records, et surtout, il a atteint la barre des 200 sélections.
Heureux, mais...
C'était pour Roberto Martinez.
Mais non, mais c'est vrai, tu vois ça, c'est un coup de fraîcheur, quoi. Tu te dis, ok, il y a le pognon, il y a tout son apparat et tout ce que je déteste chez ce joueur, enfin chez cet homme, parce que le joueur, faut qu'on peut que l'admirer, ça joue bien au foot. Mais franchement, quand tu vois ça, tu te dis, waouh.
Voilà. Ouais, je pense qu'il donne cette image et il a aussi une qualité folle, c'est un travailleur acharné. Mmh. Et on a entendu plein d'histoires... Qu'il le montre, bon, il force le respect.
C'est un très grand athlète, c'est une très bonne personne aussi, je pense, en tant que tel. Il y a cette image, cette arrogance, mais ça, c'est quand t'es un des meilleurs, si pas le meilleur du monde, t'auras d'office des détracteurs.
Ça, on peut pas plaire à tout le monde, c'est...
Dis-tu.
On connaît. Mais voilà. Je n'ai qu'une hâte, hein, c'est que les championnats reprennent, que les entraînements, parce que voilà.
Écoute, ça va pas tarder. En tout cas, on va devoir se quitter. L'heure qui nous est impartie vient de se terminer. Merci à toutes et à tous. Merci Alex. Merci Didier. Merci à tous les autres chroniqueurs qui sont venus dans le studio cette saison. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour pouvoir justement repartir sur une belle saison 2023-2024.
Il faudrait qu'on ait une équipe de 11.
Voilà.
Sympa. Et c'est toi qui fais la compo.
Je ferai ça. Et merci à toutes et à tous. Passez un bon été et à très bientôt.
Dès l'ouverture de la saison.
On sera là.
Un bon été à tous.
Merci Alex. Salut Sam.
Salut.